Crevon, vous êtes sur Jazz for Fun. Whoopi!
Bonsoir à tous, il est 21h, vous êtes sur Jazz for Fun dans l'émission En tête à tête avec. Aujourd'hui dans cette émission, j'ai l'immense plaisir de recevoir une femme. Lorsqu'elle était enfant, elle a joué dans le spectacle Le Soulier qui vole aux côtés de Chantal Goya. Elle a fait ses débuts à la télévision dans les sitcoms d'AV Productions ou encore dans l'émission Il y a que la vérité qui compte sur TF1. Depuis 2004, elle incarne Céline Frémont dans la série Plus belle la vie. Rebecca Hampton, bonjour.
Bonjour, ou bonsoir.
Tu vas bien?
Eh ben ça va, ouais, ça va plutôt bien. On va dire qu'à Marseille, on est encore un peu privilégié. On n'a pas de confinement, donc voilà, on a un petit couvre-feu. Donc ça, on va dire que ça va.
Eh bien moi, en tout cas, je suis super contente de t'avoir dans cette émission.
Et moi, je suis ravie aussi.
Alors ma première question, comment es-tu entrée dans le monde du cinéma et de la télévision ?
Comme tu l'as dit, à 8 ans, j'étais avec Chantal Goya. Donc de 8 à 10, et en fait, quand j'avais 11 ans, il y a eu un casting dont j'ai entendu parler par une amie de ma mère, où on cherchait une petite fille de 11 ans aux cheveux longs pour incarner le personnage principal d'un moyen-métrage d'Anne-Marie Miéville, qui était la femme de Jean-Luc Godard, pour accompagner le film « Je vous salue Marie Godard ». Donc voilà, ça s'appelait « Le livre de Marie », j'ai tourné ça, donc à 11 ans, en Suisse. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment, vraiment ça que je veux faire. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que l'envie ne m'a plus jamais quittée. Et j'ai attendu mes 17 ans pour vraiment, vraiment travailler. Mais parce que j'avais quand même l'école et le lycée, enfin le collège et le lycée à l'époque. Et voilà. Et j'ai commencé, on va dire, grâce à ça ou grâce à Chantal.
Et donc, c'est le métier que tu voulais faire depuis petite?
C'est le métier que j'ai toujours voulu faire. Alors après, on se pose des questions parfois parce que c'est un métier qui est galère. Donc parfois, on se dit pourquoi j'ai pas finalement voulu être vétérinaire, médecin, etc. Et puis en fait, la réponse, elle est simple, c'est parce que c'est vraiment, vraiment ce que je voulais faire et ce que j'aime faire.
Et quel souvenir gardes-tu de cette expérience quand tu jouais dans Le Soulier qui vole ?
Une merveilleuse expérience, vraiment, parce que j'avais j'avais vraiment à l'époque une passion pour Chantal. Qui est une femme extraordinaire, et son mari, Jean-Jacques, est debout. Et j'ai passé vraiment 2 ans de ma vie magique, entourée d'enfants de mon âge adorables, entourée d'une équipe extraordinaire. Et c'était complètement féerique, parce qu'en plus, quand on est enfant, on n'a absolument pas la même perception des choses, pas la même vision. Et récemment, je suis montée sur la scène des Palais des Congrès à Paris, par exemple, et j'ai trouvé ça vertigineux, tellement c'était grand, et j'avais un trac immense, alors que gamine, je l'avais pas du tout. Ça a toujours été extrêmement ludique, donc j'en garde que des très bons souvenirs.
Est-ce que tu avais fait un casting pour faire ce spectacle?
Ah oui, bien sûr, elle avait auditionné plein d'enfants, il fallait chanter, il fallait danser. Et à chaque fois qu'on en parle avec Chantal, parce qu'on est toujours en contact, et puis à chaque fois qu'elle en parle aussi aux journalistes, elle dit toujours, quand j'ai vu arriver cette petite fille, je me suis dit, faites qu'elle sache danser et faites qu'elle sache chanter. Et on a eu une espèce de coup de cœur réciproque, on va dire.
Aujourd'hui, qu'aimes-tu dans ton métier ?
Ce que j'aime dans mon métier, c'est d'abord le travail que ça impose, parce que je suis quelqu'un qui aime bien travailler. J'aime bien la rigueur, j'aime le fait de pouvoir offrir aux gens des émotions qu'ils n'auraient pas forcément s'ils ne voyaient pas la pièce dans laquelle je suis en train de jouer ou la fiction dans laquelle je suis. Et donc j'aime le public, on va dire. Et surtout, je trouve absolument extraordinaire de pouvoir vivre plein de vies en même temps.
Oui, puisque tu as été, tu es actrice, tu es aussi comédienne, tu as présenté des émissions à la télé, il y a plein de choses que tu fais.
Mais parce que j'aime bien, tout ça j'aime bien. En fait, j'aime tout ce qui est, c'est pour ça que je suis extrêmement malheureuse avec cette pandémie, parce que moi j'aime le rapport aux autres et j'aime le partage en fait. Et je trouve que c'est un métier où effectivement, j'aurais peut-être aimé être psy aussi, dans le genre, mais c'est vrai que ce que j'aime moi c'est partager avec les gens.
Et pendant 2 ans, tu as co-animé l'émission Il y a que la vérité qui compte, et tu as arrêté pour faire Plus belle la vie. Est-ce que si cette émission était amenée à revenir, tu aimerais reprendre ton rôle?
J'adorerais. Et évidemment, j'adorerais. Déjà à l'époque, quand j'ai passé le casting pour Plus belle et que j'hésitais un peu, Enfin, c'est un peu dur pour moi de faire un choix. J'avais même demandé à l'époque à pouvoir et rester sur TF1 et aller sur France 3. Or, il a fallu que je fasse un choix. Et vraiment, Laurent Fontaine m'a conseillé. C'est vraiment Laurent qui m'a poussé en me disant, écoute, t'es comédienne, c'est ce que tu aimes faire, donc vas-y. Ils m'ont beaucoup, beaucoup soutenue avec Pascal. Et bon, je regrette pas, du coup. Mais c'est vrai que voilà, j'ai déjà dit que si l'émission reprenait, j'étais vraiment partante pour la refaire.
Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui t'a marqué dans cette émission?
Il y en a plein. Il y en a une notamment d'un monsieur assez âgé qui a été fou amoureux d'une femme depuis des années. Et il est venu lui faire sa déclaration et c'était tellement magnifique que c'est une des rares histoires pour lesquelles je suis sortie de ma loge pour écouter cet homme faire sa déclaration et voir l'émotion de cette femme face à lui. Et j'ai trouvé ça magnifique je sais pas, il devait être proche des 80 ans et l'un et l'autre. Et j'ai trouvé ça magnifique qu'à cet âge-là, on puisse se faire une déclaration d'amour aussi belle et puis qu'on puisse se dire qu'on a encore de longues années à s'aimer. J'ai trouvé ça très très beau.
Alors ton interview continue, Rebecca. Dans quelques instants, nous parlerons de Plus belle la vie. Mais tout de suite, c'est le moment d'une pause musicale sur Just for Fun. À tout de suite.
Regarde comme je suis, un carré de points. Je vis, je veux, j'oublie, comme toi, ni plus ni moins. Regarde comme je crie, comme je ris aux éclats. Je cours, je crée, je brille, je sais, je ne sais pas. Toi tu veux un homme, toi tu veux un père. Tu me dis ralentis, tu me dis accélère. Et plus je te suis, et plus je te perds. Dis-moi, dis-moi, pour toi c'est quoi? Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un peu dur, un peu fragile. Un peu libre, un peu docile. Un peu fort, un peu sensible. Un peu fou, un peu tranquille. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Moi je change, tant de lancer, je m'avance, je trouve de la place, me crée d'autres espaces. Je te suis, j'invente, je me réinvente. Je suis, je m'efface, le feu et la glace. Moi je veux être un frère, un pote, un amant, un phare, un repère, et j'en veux autant. Et plus j'ai d'envie, et plus je me perds. Si tu sais, dis-moi, pour toi c'est quoi? Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un peu dur, un peu fragile. Un peu libre, un peu docile. Un peu fort, un peu sensible. Un peu fou, un peu tranquille. Un peu de rien, un peu de folie. Un peu loin, un peu ici. Un peu rêveur, un peu spleen. Un peu joueur, un peu clean. Un peu là-haut, un peu froid. Un peu chaud, un peu plus bas. Un peu d'ego, un peu de sale. Un peu de salaud, un peu de calme. Un peu de candeur, un peu de vice. Un peu de daron, un peu crise. Un peu nature, un peu glace. Un peu ou pas dans les cases. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi.
Nous sommes de retour dans l'émission En tête à tête avec. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Rebecca Hampton. Est-ce que ça va toujours, Rebecca?
Oh, mais ça va très très bien. Toujours.
Super alors. Depuis 2004, tu incarnes le personnage de Céline Frémont dans Plus belle la vie. Comment a-t-elle commencé cette aventure pour toi?
Elle a commencé par un casting à Paris, où on nous a parlé de ce projet qui était quand même extrêmement ambitieux et en même temps extrêmement risqué. Donc j'ai passé le casting pour deux personnages qui étaient celui de Céline et celui de Charlotte. J'ai été retenue pour celui de Céline qui était censé être une cadre marseillaise, tout ce qui est de plus sérieux. Bon, on sait tous comment elle a évolué, mais voilà, c'est vrai que on est parti à Marseille en se disant que peut-être qu'on partait une semaine ou deux semaines ou un mois ou deux mois. Et sans défaire les valises, sans forcément s'installer. Et puis finalement, ben voilà, ça fait, je vais attaquer ma 17e année à Marseille. Donc le temps passe vite.
Et donc au départ, est-ce que tu pensais que la série allait durer dans le temps?
Pas du tout. Puis de toute façon, moi, je ne suis pas une optimiste. Je suis d'un tempérament assez pessimiste, ce qui me permet d'être toujours agréable, enfin toujours, souvent agréablement surprise. Mais non, moi, je pensais que j'allais rentrer à Paris extrêmement rapidement. D'ailleurs, j'ai toute ma famille à Paris, mais j'avais laissé mon scooter à Paris. Dans ma tête, il était clair que j'allais redevenir parisienne assez rapidement. Et puis voilà, on a commencé sur un petit radeau, puis on a mis une voile, on a mis des rames, on a mis un petit moteur, et puis maintenant on est sur un paquebot, mais qui a quand même besoin qu'on soit très vigilant et qu'on soit là toujours.
Qu'est-ce que tu aimes dans cette série ?
Tout. J'aime l'idée d'avoir cette chance incroyable que d'incarner un personnage depuis 16 ans, de suivre son évolution. J'aime un peu la sensation de troupe de théâtre qui s'est instaurée, puisque ça fait quand même pour certains 16 ans qu'on se côtoie et 16 ans qu'on travaille ensemble. J'aime l'idée que le public nous suive depuis aussi longtemps, pour certains grandissent avec nous, pour d'autres vieillissent avec nous. J'aime l'amour que le public nous renvoie, j'aime l'amour qu'on leur donne. je trouve que c'est une expérience de dingue.
Et est-ce que tu es contente de ce qu'écrivent les auteurs de la série pour ton personnage ?
Bien sûr, oui, je suis contente parce que ça me permet moi de ne jamais m'embêter quand je tourne. Après, comme tous les comédiens, je suis un peu une boulimique de travail, donc parfois je peste de ne pas être assez présente, même si souvent c'est moi qui ai demandé à m'absenter un petit peu parce que j'ai d'autres projets à côté. Mais non, j'ai toujours été agréablement surprise et j'ai toujours interprété ce personnage en tous les cas avec beaucoup de plaisir. Et c'était une des conditions de base, c'est-à-dire que j'avais toujours dit, si j'ai plus de plaisir à travailler, je ne le ferai plus, parce que faut pas oublier qu'on est des intermittents, c'est-à-dire qu'on est quand même censé partir sur plein de choses différentes. Mais voilà, tant que j'ai du plaisir et tant que eux ont du plaisir à me faire travailler et tant que le public est heureux de me voir, je serai là.
Et en plus, et ton personnage a traversé énormément de choses et il a abordé aussi de grands sujets qui nous concernent aujourd'hui, qui sont dans notre société, comme l'homosexualité, la GPA et tout ça. Est-ce que tu penses que c'est important qu'une série quotidienne aborde ces sujets ?
Oui, je pense que c'est très important et en plus je pense que ça a aidé pas mal de personnes. Moi, j'ai des retours du public qui sont assez fascinants puis assez touchants. Notamment, je me lève et j'ai mal au dos hein, parce que je vieillis. notamment pour la GPA, pour l'homosexualité, qui était quand même, il faut le savoir, le personnage de Céline Frémont était le premier personnage féminin homosexuel d'une série française. Donc c'était, j'étais assez contente d'interpréter ça. J'avais une grosse pression parce que je voulais absolument pas que ça soit ni cliché, ni pas joli, ni Je voulais que ça soit le plus sincère possible. Et avec ma camarade de l'époque, qui était Virginie Poc, on a vraiment essayé de faire ça le plus humblement et le plus sincèrement possible.
Comment est-ce que tu te prépares avant d'aller tourner sur Plus belle la vie ? Comment est-ce que tu te prépares pour répéter tes textes ?
Je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup parce que je pars du principe que des auteurs ont écrit et que ça, c'est leur métier et que j'ai pas envie de changer le texte. Ça m'est très personnel, hein, ce que je dis, parce qu'après chacun fait comme il veut. Comme on va relativement vite sur Plus belle, on n'a pas trop le temps ni le loisir de faire de l'improvisation, des choses comme ça. Donc c'est vrai que moi j'arrive avec un texte extrêmement travaillé, et ensuite je propose quelque chose, et suivant le réalisateur qui est là, suivant ce que mes camarades me renvoient, voilà, on concilie le tout et ça donne ce que vous voyez.
Et vous ne tournez pas forcément dans l'ordre. Est-ce que c'est un peu dur des fois de se reprendre quand on passe d'une scène qui passe, qui n'est pas forcément dans le même ordre et tout ça ?
Bah, c'est-à-dire que par exemple, il m'est arrivé de jouer avec un personnage qui mourait dans la série. Oui. Et en fait, on jouait sa mort et puis après, une semaine après, je joue avec lui. Donc c'est vrai que ça peut paraître assez surprenant. C'est un exercice en fait. C'est vrai. Au début, c'est un peu perturbant, puis c'est vraiment un exercice. Et surtout, on a avec nous des coachs. Donc, on a un répétiteur qui nous fait revoir nos textes. Et puis, on a des coachs qui sont là, des scripts. Enfin, tout le monde nous rebriefe avant qu'on joue, pour qu'on sache exactement où on en est, qu'on passe pas d'impair ni de faux pas, quoi.
Comment cela se passe pour toi, une journée de tournage pour Plus belle la vie?
Ça dépend, parce que ça peut être une grosse journée suivant. En fait, nous, on travaille par système d'arches. On a une arche A, une arche B, une arche C. Donc, quand on est dans une arche A, on a beaucoup, beaucoup de travail. B, un peu moins. C, encore moins. Donc, une arche A, ça peut être un pick-up. Donc, quelqu'un vient nous chercher, par exemple, à 7h15, à la maison, ou à 6h30, suivant. On arrive sur le plateau, on s'habille, on se fait maquiller, on se fait coiffer. Et là, on a donc le répétiteur qui nous fait voir tous nos textes. On peut faire des journées en PAT, c'est-à-dire prêt à tourner, de 8h15 à 18h, si on a toutes les séquences. Et voilà, on enchaîne, on se change entre les séquences, on fait des italiennes. Donc une italienne, c'est juste redire le texte sans émotion le plus vite possible pour être sûr qu'on ait bien le texte en bouche. Et voilà, après c'est que du plaisir. En fait, le travail est en amont, et puis après ça s'appelle quand même jouer la comédie. Donc c'est quand même assez génial de faire un métier où on joue. Bon, en fait, on reste des grands enfants, j'adore.
Et vous tournez combien de minutes utiles par jour?
On travaille à peu près l'équivalent d'un épisode par jour, donc à peu près 23 minutes par jour, 18. On va dire qu'on se fait une moyenne entre les 15 et 22. Et ça fait à peu près l'équivalent d'un... Pardon, excusez-moi, parce que chez moi, même à 21h, ça sonne, vous voyez. Donc, j'ouvre. Merci. Pardon. Je suis désolée, hein, je m'excuse grave. Auprès des auditeurs, voilà. Et donc, en fait, on tourne l'équivalent d'un épisode, sachant qu'évidemment, ça n'est pas dans l'ordre, comme on l'a dit avant. Donc, mais en gros, ça nous permet de tenir la cadence et d'avoir un peu d'avance sur les diffusions.
Est-ce que tu peux me raconter un moment qui t'a marqué sur cette série?
Mais alors là, je vais te décevoir, parce que je peux pas en raconter un, parce qu'en fait, ils m'ont tous marqué. Ah. Et qu'en 16 ans, je serais malhonnête que d'en raconter un. Parce qu'il y en a tellement. Alors, je vais en choisir un, mais complètement au hasard et pour une raison extrêmement personnelle. Oui. Ça a été mon retour sur les tournages en tant que maman. C'est-à-dire que je suis retournée quand ma fille avait 3 mois. Et il s'avère que j'avais pris la décision d'allaiter ma fille, donc je ne pouvais pas m'en séparer. Donc je suis allée tourner avec ma fille, qui était donc un petit bébé de 3 mois, et que donc je m'occupais entre les séquences, ou pas quand j'avais beaucoup de séquences, mais en tous les cas, voilà, je la nourrissais quand je me faisais maquiller, ça a été un moment assez bouleversant pour moi, parce que c'était une nouvelle tranche de vie. Mmh. Donc je vais parler de celui-là, mais en même temps, il y en a plein, des moments qui touchent.
Et tu as fait récemment ton retour dans la série, ouais. Après, puisque cela faisait plusieurs mois que l'on ne t'avait pas vu. Et pour ce retour, c'est aussi ta fille qui t'a fait répéter tes textes.
Ouais, ça y est, ma fille, elle est en CE1, et puis elle lit très bien, elle écrit très bien, donc ça c'est plutôt chouette. Et pour la première fois, elle m'a proposé de me faire répéter. Donc j'avoue que c'était très très drôle, parce qu'il y a des mots qui sont un peu compliqués quand même parfois. Et l'intonation, honnêtement, n'y est pas toujours. Mais c'était quand même... c'est très émouvant d'un coup d'avoir son enfant qui nous fait travailler. Et du coup, elle a regardé ma première apparition là dans Plus belle, la récente. Et comme mon retour, en fait, et elle a explosé de rire, et j'ai trouvé ça absolument magique, parce qu'elle regarde pas normalement, c'est pas grave, pour elle, sont pas des horaires à 8h25, ma fille est au lit déjà depuis un petit moment.
Oui, c'est un peu tard pour un enfant de son âge.
C'est un peu tard, mais c'était exceptionnel.
Et est-ce que toi tu regardes les épisodes ou pas?
Alors quand je peux, je les regarde. Enfin, alors non, en règle générale, Je vais être totalement honnête, parce que sinon ça ne sert à rien de faire une interview. Je n'aime pas trop la télévision. Oui. J'aime le cinéma en tant que spectatrice, mais je suis pas fan de télé. Donc en fait, je regarde la télé quand j'ai des amis dans quelque chose. Ou effectivement, quand là par exemple la reprise de Plus belle la vie, effectivement j'ai regardé, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, Céline, et que j'avais besoin de la retrouver un petit peu. Mais voilà, non, je suis pas. En plus, je suis tellement mauvais juge pour moi-même qu'il vaut mieux pas que je regarde.
Et pourquoi est-ce que justement tu es mauvais juge sur toi-même?
Parce que je suis une personne de l'instant. Donc c'est pour ça que j'aime le théâtre. J'aime le théâtre parce que je donne sans jamais pouvoir regarder ce que j'ai donné. Et je trouve qu'à la télévision, c'est compliqué parce que on a envie de donner certaines émotions, on est dans un certain état d'esprit. Et puis parfois, ce qu'on voit n'est pas ce qu'on a voulu donner, et du coup, ça énerve un peu quand même.
Quel a été ton sentiment quand tu es arrivé la première fois sur le plateau de Plus belle la vie et dans le quartier du Mistral?
Ça a été magique pour tout le monde parce que effectivement, quand on est venu un petit peu en amont. Et là, on est tous arrivés, donc les 15 comédiens récurrents du début. Et on a fait la visite du Mistral. Et je pense que quel était l'âge des comédiens à ce moment-là, parce que ça allait de 14 ans à, ou de 15 ans, je pense, pour Dounia, à une quarantaine d'années. On était tous extrêmement émus et fiers. Et enfin, c'était des sentiments très, très... C'était très, très fort. Pour la petite anecdote, ça, je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais parce que ça me fait beaucoup rire. Mais donc, on est arrivé une semaine avant à Marseille, on a découvert les décors, on a découvert la ville, on s'est dit qu'on allait travailler là, on a vu les producteurs, on a vu les réalisateurs, on a vu tout le monde. Et quand je suis rentrée à Paris, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit je fais dodo et puis demain je te raconte tout, je viens pour déjeuner. Je me suis couchée à 22h et je me suis réveillée à 16h. J'ai dormi 18 heures d'affilée, c'est-à-dire je pense que j'avais tellement d'informations à digérer et à emmagasiner. J'avoue que c'est la première et la dernière fois où ça m'est arrivé hein, dans ma vie. Mais j'ai eu un peu peur quand même. Je me suis dit, mais il est 16h, mais c'est-à-dire, comment c'est possible? Donc voilà, non, c'était c'est un bouleversement de vie en fait, hein, quand même.
Est-ce qu'il y a
de
des...
tout quitter comme ça.
Est-ce qu'il y a des moments comme des portes ouvertes où l'on peut visiter les studios?
Oui, alors il y avait, j'ai envie de dire. Il y avait avant la pandémie qui étaient effectivement des moments où de portes ouvertes ou des concours, des choses comme ça. Je sais qu'il y a eu des choses. Après, visiter les studios, c'est toujours très compliqué. Alors, j'essaie d'expliquer ça aux gens le plus sincèrement possible. Mais pour les gens, par exemple, qui travaillent dans un bureau, je pense qu'ils peuvent comprendre ce que je dis. Mais quand on est en train de travailler, c'est très compliqué d'avoir des gens qui ne travaillent pas et qui regardent. Parce qu'en fait... c'est beaucoup de travail, ça va très vite, les gens ont tous quelque chose à faire, les techniciens, et donc c'est compliqué d'avoir des gens qui sont là juste pour regarder ou pour se balader. On est toujours en train de bosser dans les studios en fait. Il y a pas de moment de off. Donc c'est très dur. Moi, ma famille par exemple proche a visité les studios, mais au début et très rapidement quoi. Oui. Voilà, j'ai jamais emmené des amis sur le plateau.
Oui, parce qu'on n'a pas forcément envie aussi d'être dérangé quand on tourne, puisque
Mais c'est même pas qu'on n'a pas envie, en fait, c'est qu'on n'a pas le temps. Donc, on aurait envie, parce qu'on a toujours envie de partager, mais vraiment, on n'a pas le temps.
Alors, dans quelques instants, ce sera la dernière partie de ton interview, Rebecca. Mais pour l'heure, c'est le moment d'une pause musicale. À tout de suite.
C'est un rêve et on le sait. Accroché à la paroi. Par un fil de soie, on grimpe, ça va.
retour sur Just for Fun et vous êtes toujours dans l'émission en tête à tête avec, je suis toujours avec
Rebecca. Eh oui.
Alors Rebecca, depuis 2020, tu joues le personnage de Gabrielle Bellecour dans la pièce Panique au ministère. Est-ce que tu peux me parler de cette pièce?
Alors, je peux en parler, mais quand on dit ça, j'ai le cœur un peu gros parce que on a répété pendant un mois à Paris. On a joué la couturière, qui est donc en fait la première représentation qu'on joue quand on a travaillé, qu'on joue devant un public qu'on ne fait pas payer, puisque ça s'appelle couturière parce qu'à l'époque, tout le monde avait le droit d'arrêter la pièce pour faire des petits raccords, des petites choses. Maintenant, on joue la pièce dans son intégralité sans s'arrêter, mais devant un public, on va dire, de proches. Donc, on a fait celle-là, puis on a fait deux représentations devant un public masqué, et puis depuis, nous n'avons pas rejoué. Donc, cette pièce, je l'ai jouée 3 fois. Bien sûr, je peux en parler avec énormément d'amour, parce que c'est une pièce qu'a écrit Guillaume Mélanie et Jean Franco, qui a été jouée. En fait, nous, on la reprenait pour fêter les 10 ans de Panique au ministère, qui avait été interprétée avant par Natacha Amal et Amanda Lear, évidemment, entre autres. Hein. Après, il y avait d'autres comédiens. Mais voilà, donc Julie Arnold a repris le rôle d'Amanda, j'ai repris le rôle de Natacha. On a Philippe Chevalier avec nous, on a que des comédiens géniaux. En fait, je le dis, je suis émue parce que on n'arrête pas d'avoir des nouveaux calendriers pour reprendre.
Oui.
Et puis malheureusement, à chaque fois, ces calendriers-là changent puisque la conjoncture ne nous permet toujours pas de jouer. Donc voilà, mais c'est une pièce très chouette qui s'appelle Panique au ministère et donc qui porte bien son nom en ce moment. Et voilà, donc c'est vraiment une comédie, mais extrêmement intelligemment écrite. Et on a tellement eu de plaisir à la jouer le peu de fois où on l'a jouée qu'on trépigne et on attend de pouvoir tous se retrouver parce qu'en plus on est une troupe vraiment très fusionnelle. Et on a adoré jouer le peu qu'on a joué, on a adoré le faire. Donc on attend, mais dès que les théâtres réouvrent, on sera là. Voilà.
Et de quoi parle cette pièce?
Alors en fait, tout se déroule dans le bureau en fait de la chef de cabinet, qui est Gabrielle Bellecour que j'interprète. Et on doit travailler sur une loi, qui est la loi du port de l'uniforme dans les écoles. Donc ça, c'est évidemment le prétexte de fond. Là-dessus va se greffer la mère de Gabrielle Bellecour, qui est une femme extrêmement extravertie, extrêmement marrante, qui détonne totalement dans ce ministère et qui aime sa fille et qui aimerait bien que sa fille soit un peu moins rigide et un peu moins focalisée sur le boulot. Il y a la fille de Gabrielle Bellecour qui est là, qui elle-même vit des choses assez incroyables. On a le ministre qui est, on va dire, un peu paumé. En même temps, c'est Philippe Chevalier qui l'interprète et il est tellement drôle qu'il nous fait même rire nous-mêmes en tant que personne sur scène. Et on a un jeune homme à tout faire, on va dire ça comme ça. Qui va mettre un petit peu qui va bouleverser, on va dire, un peu le côté sage de la pièce. Et nous avons la femme du ministre qui est là aussi. En fait, un énorme vaudeville avec plein d'histoires d'amour et plein d'histoires d'amour dans tous les sens du terme, parce qu'il y a l'amour maternel, il y a l'amour filial, il y a le vrai amour, il y a le désamour. Enfin, tout ça est très compliqué. C'est une comédie, on va dire que c'est une comédie romantique moderne. Voilà.
Et comment vis-tu le fait que les lieux culturels soient dans l'obligation d'être fermés?
Bah, je le vis très très mal, mais ça, je pense que je pense que on le vit tous mal finalement, qu'on ait à y jouer ou qu'on ait envie d'y aller en tant que public. On le vit tous mal et c'est surtout que c'est assez incompréhensible. Donc moi, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on peut prendre un avion et un train pour aller travailler, oui, sachant qu'on peut manger dans le train, parler dans le train, et que dans un théâtre, on est masqué et qu'on a mis du gel et qu'on ne se parle pas. Donc, j'avoue que je comprends toujours pas. C'est cauchemardesque et je ne comprends pas.
Pendant le confinement, tu t'es amusé à parodier des chansons en faisant des vidéos où tu te mettais en scène et tu chantais. D'où t'es venue cette idée ?
Cette idée, elle m'est venue qu'en fait, dans ma vie de tous les jours, je chantonne beaucoup et je chantonne beaucoup pour ma fille. Ce qui peut être des choses idiotes, ça peut être une chanson pour qu'elle finisse de manger son poulet. Donc voilà, donc je reprends toujours des trucs et je mets des paroles, j'aime bien faire ça. Et j'étais avec une de mes meilleures amies qui est auteure, avec qui j'avais joué la dernière pièce avant Panique au ministère, qui s'appelait On meurt si on veut. Et donc elle s'appelle Anouk Franchini. Et à un moment, on rigolait, puis elle me dit « Ah, mais il faudrait écrire un truc. » Et puis en fait, c'est parti vraiment d'une blague entre nous. Mmh. Et donc, elle a écrit les paroles, parce que j'avoue que je n'aurais pas pu le faire comme ça, parce que moi, j'improvise. Elle a vraiment écrit. Parce que quand on écoute, on a l'impression que c'est un gros délire, mais quand même, il y a le bon nombre de pieds, il y a un message qui passe. Et on a fait ça, franchement, d'abord pour nous occuper un peu, pour nous faire rigoler aussi. Et puis du coup, on s'est dit, je me suis dit, dans ces cas-là, je vais le mettre sur les réseaux pour faire un peu rigoler les autres aussi. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous qui rigolions. Et voilà, donc on l'a fait, on n'a pas commencé au tout début du confinement parce que l'idée nous est venue après. Mais ça a été un moment très agréable pour le coup de partage, même à distance. Et puis du coup, j'ai regardé comment étaient les clips pour essayer de retranscrire un peu la même ambiance, sachant que mon téléphone était posé sur une poubelle, juste sur ma terrasse, sur une poubelle, et que je sortais le petit piano de ma fille, et qu'il fallait que je trouve du maquillage. Donc tout ça en étant confiné, c'était un peu dur, mais c'était, on va dire que c'était un petit moment de respiration.
Tu as écrit 2 livres, Lettres de là-bas et Nouvelles lettres de là-bas. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, l'écriture ?
J'adore écrire et je trouve qu'on est dans un monde où plus personne ne s'écrit de lettres, où finalement on ne passe que par des SMS, où on écrit t'inquiète avec un T, un N, un T. Je trouve toujours, et c'est même pas ça d'ailleurs, on écrit même pas comme ça parce qu'il y a un K, je sais plus où. Mais voilà, les gens n'écrivent plus. Et en fait, ce livre, c'était pas du tout, ces 2 livres à la base n'étaient pas du tout voués à être publiés. C'était vraiment des échanges épistolaires entre le dernier producteur de Colette Renard et moi-même. Et en fait, c'est lui qui a eu l'idée de les publier. Mais c'est vrai que je trouve que la langue française est belle. Je trouve que de pouvoir partager ses émotions par écrit, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, j'ai dit tout à l'heure que j'étais pas télé. Je suis très livre. Je passe mon temps à lire. Parce que j'aime l'imaginaire que ça procure, j'aime le voyage qu'on fait quand on lit. Et voilà, donc l'écriture pour moi a une place mais très 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 importante dans ma vie.
Et est-ce que tu aimerais écrire un roman ou une fiction ?
Je ne pense pas, je pense pas avoir le talent pour ça. J'écris pour moi beaucoup, j'ai plein de cahiers où il y a plein de choses dedans, mais je suis pas sûre d'avoir ou peut-être c'est une question de maturité, même si je suis un peu grande maintenant, je suis peut-être encore assez mature pour écrire vraiment quelque chose. Peut-être je le ferai un jour.
As-tu des envies futures?
On a toujours des envies. Si on n'a pas d'envie, on est mort. Donc, j'ai plein d'envies tout le temps. J'ai envie de... Déjà, j'ai envie qu'on ne soit plus en pandémie. Oui. Non, j'ai envie... J'ai envie de jouer, j'ai envie, je sais pas. Là, j'avoue que comme le futur m'inquiète un peu, j'ai des envies un peu restreintes, parce que l'imaginaire a besoin de liberté et que là, on n'en a pas beaucoup. Donc voilà, pour l'instant, on va dire que mes envies futures, c'est que ma fille et que tous les enfants qui arrivent là puissent enlever leur masque et puis avoir une vie d'enfant normale. La normalité qu'on connaissait nous, hein, évidemment. Oui. Il y a des pays où cette normalité est bien pire que la nôtre. On va dire que mes envies, c'est que les gens retrouvent la liberté et soient plus heureux. Et surtout, j'ai envie de retrouver les sourires des gens. Oui. Qu'on ne voit pas à cause des masques.
Est-ce que tu as des projets qui vont arriver?
J'ai le projet de rejouer Panique au ministère le plus vite possible.
Oui.
Et j'ai une très belle intrigue qui va arriver, enfin très belle et très intéressante, intrigue qui va arriver sur Plus belle à partir là, on va la commencer en mai. Donc voilà, pour l'instant, je m'occupe au maximum de ma fille tant que j'ai un peu de temps libre. et puis de ma famille un peu. Et puis après, je me focaliserai vraiment sur cette intrigue qui va arriver.
Et d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé tout à l'heure, combien y a-t-il de temps entre le moment où vous tournez et le moment de la diffusion ?
Alors, on a toujours dit, enfin, depuis le début, il y avait à peu près 6 semaines.
Oui.
Et puis là, je pense qu'on essaye d'avoir un peu plus encore, puisqu'on a eu malheureusement un arrêt de plus belle. Ça s'est arrêté, c'était magnifique, le jour de mon anniversaire l'année dernière, le 1er mai. On a arrêté la diffusion parce qu'on n'avait plus d'épisodes en boîte et qu'on ne pouvait plus tourner. Donc là, je pense qu'on essaie d'en faire le plus possible au cas où on serait encore amené à être confiné sans pouvoir aller travailler.
Alors moi, depuis que je suis petit, je regarde Plus belle la vie avec mes parents et avec ma sœur, et je suis super content d'avoir pu t'avoir dans cette émission et de t'avoir rencontré en octobre pour écrire une interview sur toi dans le magazine VIP Prédiction 2021. J'espère d'ailleurs...
C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là tous les deux et qu'on se fait un tête-à-tête, parce que moi je tiens à dire aux gens quand même que tu es arrivé avec une gentillesse, un professionnalisme et une sympathie qui serait bonne pour tous les journalistes qu'on connaît, en fait. Parce que c'est très très agréable de voir que la relève peut être aussi efficace et aussi agréable.
Eh bien, merci beaucoup.
Que toi.
Merci beaucoup, en tout cas, ça me fait très plaisir. Et j'espère d'ailleurs que l'article t'a plu. Et,
il était très bien, l'article.
Eh bien,
il était très bien parce qu'il était très... Il a bien retranscrit ce qu'on a partagé. Donc, c'était très agréable.
Eh bien, merci beaucoup et tu es une personne formidable. Et encore une fois, merci pour ce moment.
Merci à toi, vraiment. Et une belle soirée, du coup, musicale.
Merci beaucoup. Bye bye. Bonne soirée à toi aussi. Un grand merci aussi à François Lambert qui m'a permis cette rencontre. Quant à vous,
et un
bisou aussi. Quant à vous, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission sur Just for Fun. D'ici là, passez une belle soirée et prenez soin de vous. À bientôt.
J'étais pas le même vendredi. T'avais pas non plus croisé ma vie. J'étais pas pareil à gueuler sous la pluie. Je t'ai attendu, vois-tu, et depuis, c'est pas demain la veille que je maudirai le réveil. Et réveille-moi si je ne m'émerveille pas devant la vie que l'on a tant qu'on vit tous les deux. Pas demain la veille que je maudirai le soleil, car le soleil c'est toi et moi solennel pour une fois. Je ris pas. Oh, oh. On peut voir le monde en tout petit ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde tout petit, moi je t'aimerai toute la vie pour de vrai. T'es tout ce que j'ai pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. Est-ce qu'on sera les mêmes toute la vie? Même rire aux lèvres et même envie. On fera mentir l'époque, on va quitter Paris. Puis je te chanterai en cloche en attendant le petit. Je ris pas. Oh, oh. On peut voir le monde en tout petit ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde en tout petit. Moi je t'aimerai toute la vie pour de vrai. T'es tout ce que j'ai pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. Et les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Et les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. dis les coups de poing, les coups de vieux. Je veux qu'on les prenne à deux. Je vis pas. Oh. On peut voir le monde en tout petit ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde.